Alors, au Québec, il y a un tronçon de 455 km qui n'est toujours pas pavé. Il n'y a pas d'asphalte entre Kegaska et Blanc-Sablon sur la basse côte nord. Il y a deux malades, je vais le dire comme ça, parce que c'est vraiment un défi extraordinaire, qui vont traverser ça en bicyc à pédale, toute chose. Ils vont traverser ce qu'on appelle la route blanche. Alors, il n'y a pas de bitume, il n'y a rien. Là. C'est une route de neige. C'est comme des sentiers de motoneige. La neige est tapée, mais c'est de la neige. Ils vont traverser ça, eux autres, à vélo. Puis ils vont être, d'après moi, les premiers à réussir ça. On a avec nous Samuel Lalande-Marcon. Salut, Samuel.
Bonjour.
Tu parles d'un méchant défi. Je vous traite de malade un peu, c'est avec un sourire, mais c'est important, là.
Ben c'est une belle folie, effectivement. Merci, c'est flatteur. Pour nous, ce qui finalement est assez complexe, c'est toute la préparation logistique parce qu'il y a plein d'éléments qui sont à regarder. C'est un défi aussi
comme quoi?
Qui manifestement n'a pas été relevé avant à vélo.
Oui.
Donc, nous, il faut vraiment regarder est-ce que bon la route permet au vélo de passer. Si ça passe pas, quelle stratégie on adopte. Évidemment, il y a toute la gestion aussi du temps froid. Les ravitaillements. Donc, tout ça mis ensemble fait une préparation logistique qui est assez lourde pour qu'une fois rendu sur le terrain, ben finalement, ça soit pas mal moins pire qu'on pourrait l'imaginer. Moi, je pense que quand on est dans la réalité de la chose, par la beauté du territoire, la rencontre avec les gens, surtout avec le bon équipement et puis évidemment pas de pépins techniques, ça peut être une expérience finalement qui est extrêmement agréable.
Je sais que c'est une route qui a à tous les kilomètres, ils appellent ça des cabanes de survie, sont à chaque combien de kilomètres ces cabanes-là?
De mémoire, j'ai pas le chiffre exact. On parle, je pense, entre soit 20 à 40 kilomètres de distance. Donc, c'est sûr que dans un blizzard, ça peut être problématique de s'y rendre, surtout qu'on n'a pas de motorisation. Donc, nous, c'est sûr qu'on n'a pas la sécurité.
Je connais quelqu'un qui l'a fait en motoneige puis qui faisait des crises d'angoisse. Là. Vous allez le faire en vélo.
Effectivement. Un des avantages, par contre, qu'on a de le faire en vélo versus avec un moteur, c'est que, bon, bien sûr, il y a moins de chances que le moteur arrête de fonctionner.
Ah ouais.
Et aussi, on est entièrement autonome. La technologie, c'est beaucoup dans nos jambes puis dans notre tête. On amène évidemment pas mal d'outils technologiques là, pour les communications. Mais comme on est autonome, parce que la majeure partie du temps dans cette expédition-là, on va dormir dehors, ça fait en sorte qu'à n'importe quel moment, on a toujours la possibilité donc de s'installer un campement puis de se mettre en sécurité. C'est sûr qu'il y a des endroits qui sont moins propices, là, notamment quand on est au milieu des étendues d'eau gelée, on va être balayé par les vents. Mais ça reste qu'avec nous, on a de l'équipement très sophistiqué qui nous permet donc de faire face là, aux aléas de la météo comme ça.
Bien, je suis ravi de voir que vous n'y allez pas en fou. C'est quand même impressionnant. La part des Québécois ont vu le village de Harrington Harbor, parce que c'est là où a eu lieu le tournage du film « La grande séduction ». Mais à part de ça, il n'y a pas beaucoup de Québécois qui connaissent vraiment la basse côte nord. Combien de villages vous allez traverser entre Kegaska et Blanc-Sablon?
Eh bien, il y a 14 villages en basse côte nord. Nous, dans notre périple, on va passer par 10 d'entre elles. Puis on prévoit de dormir dans 7 de ces communautés-là.
Mm-hmm.
C'est vraiment un endroit très particulier au Québec puisqu'on a une mixité sociale entre les cultures inoues, anglophones et francophones.
C'est
vraiment
ça.
Une espèce de melting pot à la basse côte nord qu'on retrouve juste à cet endroit-là.
Oui, bien c'est ça. Donc, vous allez échanger avec ces gens-là. Vous parlez anglais?
On parle anglais.
Parlez-vous inou, ça?
On connaît les bases un peu. Je m'intéresse, moi et mon partenaire Félix-Antoine Tremblay, on s'intéresse aussi aux cultures autochtones. Donc, nous, c'est sûr qu'on n'envisage pas faire un périple comme ça sans... participer à des rencontres d'une manière ou d'une autre. On est très chanceux puisqu'on avait lancé une invitation, puis pour l'instant, donc deux écoles de la Basse-Côte-Nord, la communauté de Unamen-Chipou à La Romaine et puis à Pakwashipi, nous ont contactés pour qu'on puisse organiser des activités. Donc, durant le séjour, nous, on est très heureux puisqu'on va être hébergés par eux. Et ensuite, on prévoit des activités en plein air. Et bien sûr, nous, on n'y va pas juste présenter nos affaires, on y va aussi pour écouter puis vivre un peu, entendre qu'est-ce qu'eux ont à dire sur ce territoire-là qu'ils habitent depuis, évidemment, des millénaires.
Mais bien sûr. On espère que vous allez nous ramener ces informations-là, puis je vous aurai encore en entrevue à ce moment-là. Le retour de ça est toujours très, très, très intéressant pour justement apprendre comment les gens vivent, qu'est-ce qu'ils vivent, etc. Vous allez, je vous le dis rapidement, là, parce qu'on approche la fin de l'émission. Moi, je fais du 4 roues de temps en temps sur les pistes fédérées, mais je peux vous dire qu'on tape ses nerfs des motoneigistes. Ils vont beaucoup plus vite. En vélo, ça vous énerve pas, ça?
Effectivement, ça peut représenter un certain problème. Moi, j'ai la chance d'avoir un ingénieur, en fait, un étudiant en ingénierie dans l'équipe. Donc, on fonctionne beaucoup par complémentarité. Sur le site web de l'expédition, il y a un document de gestion de risque assez exhaustif qui a été préparé. Nous, on vient à la conclusion que c'est pas plus dangereux qu'une motoneige qui est arrêtée sur le bord de la route en raison d'un bris mécanique. Donc, c'est sûr que nous, la visibilité est très importante. Il y a quand même 60% de la route qui est sur l'eau. Alors à ce moment-là, la visibilité est pas mal meilleure. Sinon, écoute, évidemment, oui.
Je vais être obligé de te couper là. L'émission est finie, on n'a pas le choix, c'est les nouvelles. Mais écoute, je te souhaite bonne chance, bonne année, puis on veut en entendre parler à ton retour. Merci beaucoup.
Un grand merci.
Merci à Larry et Valérie, et puis bonne année. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye.